Résonance magnétique.
Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans Résonance Magnétique, le scanner sonore de votre conscience. Le principe de l'émission, vous le connaissez sans doute très bien, chers auditeurs assidus, une question, une infinitude de réponses, des invités, de l'improvisation et de la musique. 1h30 dans votre salon, dans notre salon, pour une discussion entre amis sur ces tout petits riens qui nous construisent. La question qu'on se posera ce soir est celle-ci, de quel genre est la musique? Si l'on en croit les mauvais médias, les grandes surfaces culturelles ou les algorithmes de suggestion sur Internet, nous sommes nos goûts. Enfermés, ligotés, condamnés, programmés pour aimer Rihanna, Jay-Z ou Mylène Farmer, pour beaucoup, les filles, ça aime la musique comme ça. Ah oui, on crie pour les Beatles, on crie aujourd'hui pour Justin Bieber ou les One Direction, hystérie collective pour des chanteurs trop beaux. Les filles, ça aime la musique qui fait pleurer en pensant au prince charmant qui viendra remplacer dans leur cœur le salaud qui les a largués par SMS. Ah, alors ça c'est Nadia, ma collègue, qui m'a dit, je lui ai dit, quand je te dis musique de fille, tu penses à quoi? Elle m'a dit Bryan Adams, tout de suite. Et alors là, les deux grands yeux des personnes qui sont autour de moi ce soir se demandent qui est Bryan Adams.
Comment ça, deux grands yeux?
Quatre grands yeux, pardon. Oui, non, vous avez quatre.
Oh, deux bornes.
C'est beau. Tu vois, il y a ce truc là quand même, là, ça te prend comme ça votre trip, c'est magnifique.
C'est ça qui est vraiment un abîme entre les genres.
Voilà, donc ça fait dormir la musique de filles. Et les garçons, bah ça aime les trucs plutôt violents, les rappeurs qui font peur et disent des trucs rebelles, la virilité, pure addition d'armes à feu et de filles en mini-short. Mais ça c'est NTM quand même, c'est... Tu vois, c'est... Bon. On aime tous bien quand même Joey Star, hein. Je comprends pas très bien ce qu'il dit. Il dit pose ton gun. Ouais.
Bah pose-le.
Il y aurait donc une musique de fille et une musique de garçon, comme il y a une musique du monde et une musique électronique. Et si tout cela n'était finalement que marketing, comme les rasoirs roses pour les filles et bleus pour les garçons? Et pourquoi la musique est-elle finalement du genre féminin? Pourquoi on peut pas dire le musique? Et qui sont les musiciens et les musiciennes? Pourquoi est-ce qu'ils font de la musique de fille ou de la musique de garçon? Faut-il être une fille pour faire de la musique de fille? Est-ce que les garçons ont aussi le droit de produire des chansons mielleuses et amoureuses? C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre en musique. Parce que c'est la musique quand même ce soir qui va être le principal sujet, le principal objet et notre principal invité de notre émission. Des morceaux donc qui ont été choisis par Philippe Ducas, qui était juste à côté de moi. Bonsoir Philippe.
Bonsoir. Alors le problème c'est que j'ai choisi que des musiques de filles.
Et ben voilà. Et ben justement. Mais non, mais c'est des musiques composées par des filles, écrites par des filles.
C'est très différent.
Voilà, mais qui ne sont pas des musiques de filles. L'idée c'est justement de déconstruire toutes ces idées-là. Il n'y a pas forcément de musique de filles et de musique de garçons, mais une musique pour tout le monde, faite par des filles et des garçons. Effectivement, merci beaucoup. Philippe, tu as raison, il faut dès le départ, on va dire, il n'y a pas de musique de garçons et de musique de filles. Comme ça, on a déjà répondu à la question et maintenant on peut s'amuser un petit peu. Avec Ramon Chomata, ça va?
Alors, pourquoi mes jambes autour de ton cou? Cravate, collante, bouffante, bleu foncé, monotone, vestibule de la cri-crieuse, blanche olive de la chrétienté. Pourquoi attendrais-je devant une porte close, suppliante et timide, torride, violoncelle? Ayez des enfants, imbibez vos gencives de vinaigre rare, les plus tendres blancheurs et teintées de noir. Votre pénis est plus doux que le fascier d'une vierge, plus irritant que la pitié, plus mitif outil de l'incroyable tohu-bohu, attendu. Adieu, au revoir, c'est fini, goodbye, l'envie aux micro-blandes, floraison et tarie. Reviendront plus vifs, plus violents, ces mauves bonbons aux pamoisons dévotes, pressantes, tétaniques, les cauchemars véhéments de l'après-midi, sans toi. C'était Joyce Mansour.
Résonance magnétique. Merci Ramon Chaud pour cette lecture. Alors, il y a plein de choses sur la table. On va les découvrir petit à petit dans le courant de l'émission. En tout cas, je voulais vous dire, hein, chers auditeurs, il ne faut pas oublier que vous pouvez nous contacter pour discuter avec nous, raconter des anecdotes sur la musique, sur votre relation à la musique, qu'elle soit curieuse, passionnée ou autre. Vous pouvez nous appeler donc au 01 72 63 46 84. N'hésitez pas, il y a quand même quelques personnes qui nous écoutent, donc n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de discuter avec vous. Et si on commençait finalement cette émission directement en musique, Philippe, je crois que tu as déjà préparé quelque chose, un morceau pour démarrer cette émission.
Oui, j'ai préparé un morceau qui est pour le coup pas une composition à proprement parler, puisque c'est Victoria de Los Angeles et Gerald Moore. Donc Gerald Moore est pianiste et il avait l'habitude d'accompagner Victoria de Los Angeles dans des leaders de Strauss, de Schubert, de Brahms. Là, pour le coup, c'est un leader de Brahms. Sauf qu'ils ont inversé les rôles, c'est-à-dire que Gerald Moore s'est mis au chant et Victoria de Los Angeles au piano.
Oui, mais un leader, il faut expliquer que ce n'est pas quelqu'un qui dirige un groupe.
Non, un leader, c'est l'équivalent d'une chanson, ça veut dire une chanson.
Oui.
Voilà.
Eh bien, on l'écoute, si Étienne le veut bien. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Étienne.
Bonsoir Étienne. Salut. Donc c'est bon, tu es prêt, on y va? On commence cette émission? Bah super, bah, on y va.
OEA. 15738, take 3.
Est-ce que les hommes sonnent toujours faux?
Ça dépend. S'il veut chanter comme une soprano, oui, c'est un peu difficile pour lui.
Oui, mais ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est qu'ils inversent donc les rôles. Mais on s'aperçoit que Victoria de Los Angeles, elle chante non seulement très bien, mais elle joue très bien du piano. Alors que le type, il joue très bien du piano, mais on ne peut pas dire que ce soit un chanteur extraordinaire. Bon, sur la fin, il se rattrape un peu. Mais c'est intéressant l'histoire du genre. Là, pour le coup, ça ouvre bien l'histoire.
Mais alors, une chose que j'aimerais bien comprendre sur le genre, il s'agit de sexualité ou d'appétence?
Ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre.
Alors, c'est quoi le genre?
La question du genre, c'est dénué de la question de sexualité. Ça vient bien sûr à un moment donné après. Mais en même temps, on peut parler justement du genre masculin, du genre féminin. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, ce serait de dire qu'il n'y a pas finalement de genre. En fait, il y a deux courants féministes. Il y a soit tu dis les filles, c'est l'équivalent des garçons, point barre. Soit tu dis les filles et les garçons, c'est différent, mais ils sont quand même à égalité, même s'ils sont différents. Malgré leurs différences, ils sont quand même, ils méritent une égalité. Donc, c'est les deux manières de penser le genre. Donc, est-ce qu'il faut se dire les filles et les garçons, c'est la même chose, ou est-ce qu'il faut se dire les filles et les garçons, c'est différent, mais quand même égal?
Oui, mais il y a un degré qui a été passé, puisqu'on en est arrivé à la naissance. On n'a pas de genre, on n'est ni homme ni femme. Et c'est à partir d'un certain moment où on choisira soi-même son genre. C'est-à-dire qu'un garçon pourra décider qu'il est une fille, et une fille, un garçon. On en est arrivé à ce degré.
Hein. Uniquement pour les gens qui sont transgenres, qui sont mal...
Pas du tout, il y a des courants qui veulent qu'il n'y ait pas de genre à la naissance.
C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait éduquer ces enfants d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'on éduque les filles comme des filles, voilà, les garçons comme des garçons, et qu'en fait, on pourrait se dire, non, éduquons les enfants de la même manière. Mais parce que je pense qu'en plus, c'est pas volontaire, on n'éduque pas volontairement une fille comme une fille, c'est-à-dire qu'en fait, ça vient...
C'est culturel.
On questionnera, parce que vous êtes tous les deux papas, et en plus, vous avez aussi des filles, donc du coup, on va pouvoir vous demander comment vous éduquez vos filles, est-ce que vous les éduquez comme des filles ou comme juste des gens,
comme normaux, des enfants.
Des gens, garçons, filles réunis, ou pas. Il y a Étienne, je crois qu'il voulait dire un petit mot.
Ouais, je me demandais, parce que j'ai l'impression qu'on est conditionné quand même pour être un garçon ou pour être une fille par la société, par les images qu'on nous montre. Donc voilà, j'avais vu une image comme ça. On demandait aux filles de courir comme une fille. Donc elles faisaient semblant de courir, voilà, toute guillerette, un peu n'importe comment. Et après, on leur montrait des images d'une sportive, quoi, qui court comme n'importe quel homme qui court normalement.
Qui court comme n'importe quel homme. Il y a toujours cette question, est-ce que la fille qui court normalement court comme un homme? Mais c'est vrai que c'est une question qui est intéressante. Alors vous, en tant que papa finalement, comment vous éduquez vos filles?
Il faut élever une fille comme une fille, sinon elles n'aimeraient pas leur papa.
C'est ça en fait la question.
Elle est que là. C'est que, de toute façon, faire un enfant, c'est un acte profondément narcissique.
D'accord. Oh, c'est bon de l'entendre dire.
Par contre, moi qui ai travaillé avec beaucoup de musiciens et de musiciennes, je peux dire que les musiciennes travaillent différemment que les musiciens.
C'est-à-dire ?
Le musicien, il a tendance à un peu être intrusif. C'est-à-dire qu'il va imposer sa façon de jouer, alors que les filles ont tendance plutôt à contourner, à essayer de voir comment elles peuvent apporter une touche un peu décalée à la chose.
Et pour quelles raisons elles font ça? Est-ce que c'est parce que justement elles ont besoin de se démarquer parce qu'elles ne sont pas considérées comme l'ensemble des musiciens, c'est-à-dire les hommes? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui les pousserait à se démarquer?
Alors il y a une revue intéressante qui s'appelle Research, qui est une revue qui est née dans les années 70, au milieu des années 70, où il y a un article particulier qui explique ce qui se passe entre les garçons et les filles. Donc on voit un dessin d'un jeune Inca, un bébé Inca, un mâle, qui a sa tête coincée entre deux planches de bois, pour qu'il ait le crâne un peu pointu. Et en fait, quand on voit des Incas de profil, ils ont la tête de Zippy the Pinhead. Je ne sais pas si vous avez connu Zippy the Pinhead.
Non.
Bon, ça c'était une question.
Vous êtes trop vieux.
Oui, mais on l'assume. Donc ils ont le crâne pointu. Alors pourquoi cela? Parce qu'en fait, il y a deux hémisphères dans le cerveau, le droit et le gauche. Et les garçons, lorsque les testicules sortent, il y a beaucoup de ponts qui se coupent entre les deux hémisphères. Donc on faisait le crâne pointu pour que les mâles aient plus de circulation entre le peu de ponts qui restent. Et les filles sont autrement mieux équipées parce qu'elles ont davantage de ponts.
De ponts, voilà. Les filles, c'est toujours mieux équipées.
Donc ça, c'est l'explication vraiment Inca.
D'accord. Et toi, Philippe, du coup, comment tu as élevé ta fille? Puisque, est-ce qu'elle a encore besoin d'être élevée? Je ne pense pas.
Non, elle se débrouille très bien. moi, je l'ai éduquée comme un enfant, c'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question d'une fille, d'un garçon. J'écoutais de la musique avec elle, on a été voir des expos avec elle. Je crois que j'aurais éduqué un garçon exactement comme j'ai éduqué ma fille. Enfin, je m'en serais occupé exactement de la même façon.
Tu l'as toujours fait écouter de la musique
Ah oui, absolument. Elle a toujours écouté de la musique. On a toujours fait des choses ensemble. On a fait plein de choses comme on le ferait avec un garçon, de la même manière.
Mais est-ce que tu t'estimes être un mâle ordinaire?
Ah ça, alors là...
Est-ce que tu aimes
pas extraordinaire non plus.
Est-ce que tu aimes le football?
Non, pas plus que ça. Non. C'est, mais pas moins que ça non plus.
C'est la question qui permet de déterminer si un homme est un homme ordinaire ou un homme non ordinaire.
Je crois,
extraordinaire.
Non. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui détermine un homme?
Est-ce que tu aimes le football, Étienne?
Non, pas du tout. Je ne suis pas le football, je n'aime pas le football.
Il n'y a que des hommes qui n'aiment pas le football. Mais il y a beaucoup de femmes qui aiment le football. Il y a des très bonnes footballeuses.
Depuis peu de temps, enfin, c'est médiatisé, je veux dire.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, avant, personne ne s'en intéressait, Maintenant, les gens commencent à s'y intéresser et on médiatise les femmes footballeuses. Mais elles rapportent quand même encore beaucoup moins d'argent, donc elles sont toujours moins intéressantes.
Il y a toujours ce problème-là, de toute façon.
Est-ce que les musiciennes rapportent moins d'argent? Non. Les musiciennes rapportent de l'argent.
Non, oui, je pense.
En fonction de la mini-jupe qu'elles portent.
Oui, c'est ça, le malheur.
Non, mais moi, j'ai des souvenirs extrêmement concrets. Je pourrais même citer des noms. Où à partir du moment où la chanteuse ne voulait plus mettre de mini-jupe, on a retiré les disques des bacs.
C'est-à-dire que Beyoncé ne serait pas Beyoncé sans son mini-short.
Enfin, on a un exemple d'une femme extraordinaire qui ne portait pas de mini-jupe, que je sache. Mais je ne sais pas à quel moment tu voulais la faire passer.
Nadia Boulanger, tu veux dire, je pense.
Non, Nadia Boulanger, c'est un cas extraordinaire, parce que la plupart des compositeurs importants du XXe siècle sont passés par elle, si j'ose dire.
Je peux vous donner des noms. Alors,
si tu oses dire. Merci.
Nadia Boulanger a formé plus de 1200 élèves, il faut quand même le savoir, dont Elliot Carter, Daniel Barenboim, Aaron Copland, Vladimir Kosma, John Elliott Gardiner, George Gershwin, Philip Glass, Jay Gottlieb, le fameux pianiste, Pierre Henry, Quincy Jones, Michel Legrand, Igor Markevitch, Astor Piazzolla, Marius Constant, évidemment, j'en oublie, puisqu'il y en a 1200. Enfin, les 1200 ne sont pas venus célèbres. Mais
la meilleure prof d'harmonie, de contrepoint, de tout.
Alors, elle est surtout connue comme étant professeure, alors qu'elle a composé, elle a dirigé, etc. Elle a commencé à étudier la composition à 9 ans, ainsi que l'orgue. Et elle a surtout une carrière absolument extraordinaire de compositeur. Elle était au conservatoire américain de Fontainebleau et elle a formé toute la musique contemporaine, et donc même avec des gens comme Michel Legrand, Quincy Jones.
Michel Legrand, c'est quand même
populaire.
Une honte.
Non, mais.
Michel Legrand, c'est pas possible. C'est juste pas possible.
Tu crois que c'était son moins bon meilleur
meilleur.
C'est un vrai cauchemar, quoi. C'est étonnant.
Ah non, moi j'aime bien Michel Legrand.
Non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il y a des choses assez drôles de Michel Legrand que je trouve pas mal. Les Parapluies de Cherbourg, c'est extrêmement drôle à écouter. Non, c'est bien. Il a quand même joué avec. Il a été repris par Miles Davis. Il a joué avec Coltrane. Enfin, quand même, c'est pas. Il y a des disques qui ne sont pas indignes. Alors, bon, voilà, moi, je ne suis pas non plus un grand fan de Michel Legrand, mais je pense qu'on va écouter du Nadia Boulanger. Donc, elle est née en 87, elle est morte en 79. Voilà.
On y va? Étienne nous fait signe qu'on y va. Alors,
c'est un morceau de Jean Français, qui a été aussi son élève, qui s'appelait Le WC Couvre-Chef. Et c'est un enregistrement historique
le WC Couvre-Chef.
Le WC Couvre-Chef.
Le WC Couvre-Chef, c'est bizarre.
Le WC Couvre-Chef, c'était pas mal.
Marcel Duchamp s'en serait servi, peut-être.
Mais alors, du coup, ça m'intrigue parce qu'elle est quand même beaucoup moins connue que les compositeurs que tu as cités. Est-ce qu'on revient encore à cette fameuse phrase « Derrière chaque homme célèbre, il y a une femme ». C'est un peu cette idée ou pas du tout ?
Non, c'est pas du tout cette idée. Non, mais très souvent, les professeurs sont connus pour avoir eu des élèves qui sont devenus célèbres. Matisse avait eu comme prof Gustave Moreau, par exemple. On connaît plus Matisse que Gustave Moreau. Donc il y a des tas de... c'est toujours la même histoire. Et c'est vrai que quand on écoute son morceau, c'est pas extraordinaire, on va pas se mentir. Mais c'est très professionnel. Il y a quelque chose de très académique, j'allais dire, dans ce qu'elle fait. Mais il y a un art du contrepoint. Enfin, je veux dire, c'est pas indigne.
Mais de toute façon, les gens importants sont souvent peu connus.
Oui.
De leur vivant.
C'est ça. C'est-à-dire que tous les gens connus ne seraient pas finalement si importants que ça. On est passé à côté de l'important.
Ben, l'important, on découvre bien plus tard qui était important dans l'histoire, en fait.
Oui, c'est ça. C'est que finalement, c'est quand ils meurent longtemps après.
Oui, les gens connus de leur époque sont bien souvent totalement oubliés après leur mort.
C'est l'effet de musique de masse de...
Oui, dans tous les arts. Enfin, je veux dire que ce soit en peinture, enfin, les arts plastiques, architecture, peu importe. Enfin, c'est le temps qui fait l'histoire.
Mais en tout cas, c'est vrai que derrière derrière beaucoup, il y a quelqu'un, que ce soit homme ou femme.
Oui.
Ah oui, ça, on n'est pas tout seul, ça n'existe pas.
Donc derrière les femmes, il peut y avoir des hommes et des femmes, derrière les femmes, des hommes, derrière les hommes, des hommes et des femmes.
Oui, parfois des chiens.
Oui aussi, oui.
Non, mais on ne sait pas ce qui donne la puissance à quelqu'un, en fait. Mais en tout cas, en ce qui concerne la musique, on dit quand même la musique.
Et pourquoi la musique, alors ?
Ben, c'est l'histoire de la muse, qu'on met en hic.
La muse en hic, c'est pas mal. Ça fait penser à ce morceau-là. On a dit qu'on voulait le passer tout à l'heure, mais on n'a pas prévenu Étienne. Il faudra le chercher sur Internet. Le Hot.
Ah oui, le Hot de Louise Bourgeois.
Alors, on va chercher Hot de Louise Bourgeois.
O-T-T-E. Et on t'entend toujours pas.
Je vais voir ce que je peux faire. Okay.
Hot de Louise Bourgeois, effectivement, sur l'idée que quand les hommes font des choses, c'est toujours bien. Et puis quand c'est les filles, les femmes qui les font, finalement, c'est un peu... Oh, c'est sympa, mais c'est mignon.
C'est ça, c'est-à-dire qu'un homme, il fait la cuisine. C'est absolument incroyable. Une femme, elle popote.
Elle popote,
voilà. Un homme, il découvre un vaccin. C'est sublime. Une femme, elle dégote. Un truc au puce.
C'est ça.
Voilà. Mais bon, on écoutera ça tout à l'heure si on arrive à le trouver.
Oui, mais je pense qu'on va le trouver très facilement. Il doit être dans le coin, tu sais, il est toujours pas très loin. Alors, il y a un petit... Il y a Marie, qui n'est pas là ce soir, malheureusement. Marie, qui est musicienne, qui est violoniste, j'allais dire violoncelliste, mais pas du tout, elle est violoniste, et elle anime aussi une émission à Radio Campus Paris qui s'appelle « On va vous chercher des noises », qui est un format court sur la musique. Donc, l'idée, c'est d'aller voir des musiciens et questionner un peu la musique, la fabrication de la musique, mais aussi les spectateurs. Il peut y avoir des émissions sur qui est dans un public... qui est le public des jazz qui se produisent au New Morning, par exemple. Est-ce que c'est un public homogène où il y a plein de gens différents qui viennent les voir? Est-ce que je sais pas, par exemple, elle questionne la musique de jeux vidéo, ce genre de choses. Donc, on va vous chercher de noises. Et là, elle a rencontré une amie à elle qui est dans son master et qui se questionne, elle, sur la musique et le genre de la musique. On va l'écouter un petit peu, puis on en rediscute juste après.
On dit un master ou une master?
Un master. Et donc Marie...
T'as vu comme elle me cloue le bec?
Oui, un master. Alors là, on n'est pas du tout dans le bon... C'est pas grave. C'est quoi ça qu'on entend tout de suite, là?
Ça, c'est Jane Lee.
Ah oui, c'est Jane Lee, oui.
Oh, super.
Bon, bah écoute, finalement, on va écouter ça. On écoutera Marie plus tard.
Donc, Jane Lee, c'est qui?
Alors Jane Lee, c'est une chanteuse absolument extraordinaire de free jazz, pourrait-on dire, qui a joué avec les plus grands, Archie Shepp, Gutus Hemphill, Gunter Hemphill, avec Rand Blake, etc., et qui a une voix absolument formidable. Elle a fait un disque donc, qui s'appelle Don't Freeze Yourself, c'est le morceau, et je vous le laisse écouter, on en reparlera après. Thank you.
Alors Philippe, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur ce morceau ?
Oui, bah, je peux dire déjà que... C'est... D'abord, elle a fait très peu de disques sous son nom. Il doit y en avoir 4 ou 5, pas plus. C'est une composée. Donc elle a composé ce morceau, c'est une compositrice. Elle a ce chant absolument décalé qui est entre le feulement, le cri par moment, tout en retenue. Et ce disque a été publié sur le label de l'artiste Penk, qui avait un label qui a publié une cinquantaine de disques. Lui-même tient la partie piano sur ce disque. Et c'est vraiment la scène free, c'est une égérie de la scène free. Elle est morte il y a 3 ou 4 ans, je n'ai pas sa date ici de décès, mais elle est morte il y a assez peu de temps. Et c'est quelqu'un de très très peu connu et qui est absolument formidable.
Voilà. On pourra en mettre de toute façon toute la playlist sur l'article sur le site de Radio Campus Paris. Comme ça vous pourrez retrouver tous les morceaux, ou en tout cas retrouver des morceaux qui ne sont peut-être pas ceux-là, mais des musiciennes et des compositrices qu'on va présenter ce soir. Alors du coup... notre cher réalisateur Étienne a fait une petite erreur tout à l'heure, puisque les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps, il paraît. Donc du coup, il ne sait pas mettre des disques et en même temps lancer des enregistrements. Donc voilà, bravo, merci. C'est pas grave, Étienne, c'est pas grave.
J'aurais droit à 50 coups de bâton.
Exactement, c'est comme ça qu'on traite les hommes ici. Étienne, donc on va écouter cet enregistrement, donc cette interview qu'a faite Marie avec son amie Bérangère Dujardin, qui est donc élève en master, un master. En musicologie et qui
les
va
masters
donc
de Paris.
Voilà, et donc du coup qui nous parle un peu de cette différence homme-femme. Est-ce que finalement il y a des musiques de filles et des musiques de garçons, ou est-ce que justement la différence ne se situe pas ailleurs? Mais je vais pas trop en dévoiler, on va pas faire de spoiler tout de suite.
Aujourd'hui, pour parler de la question « Y a-t-il une musique de fille et une musique de garçon ?», j'ai devant moi Bérangère Dujardin, qui est coordonnatrice de projet d'action culturelle et étudiante en médiation de la musique. Alors, Bérangère...
Bonjour.
Salut. Toi qui, en tant que médiatrice, tu lis beaucoup d'études sociologiques, pourquoi est-ce que cette question de la musique de fille et une musique de garçon, ça peut être intéressant à étudier de ce point de vue-là ?
La sociologie, ça va être la matière qui va nous donner des chiffres pour vraiment voir si les idées communes sont vraies ou pas. Et c'est aussi intéressant à étudier parce que la sociologie nous permet d'étudier à la fois les lieux de fabrication de la musique et les lieux de son écoute. Donc c'est là qu'on remarque qu'on ne sait pas vraiment s'il y a vraiment une musique fabriquée pour les filles, par exemple. Bien sûr, c'est nuancé par les girls bands comme les Spice Girls. Mais on se rend compte que ça va être plutôt au niveau de l'écoute que le genre va intervenir.
Et alors pourquoi est-ce que c'est sur l'écoute que le genre intervient ?
Si on classe les genres musicaux, on se rend compte qu'il y a plus de filles qui vont écouter de la variété et de la chanson française, alors qu'il va y avoir plus de garçons qui vont écouter du métal et de la pop et des musiques électroniques. Donc il y a un sociologue qui s'appelle Philippe Coulangeon qui a montré que c'est parce que les femmes étaient plutôt du côté de la narration et de la fiction dans leur consommation culturelle en général, et donc dans la consommation de musique, et que les hommes étaient plutôt du côté de l'abstraction. Mais si on prend la dernière enquête de 2008, qui commence à dater un peu, mais c'est les derniers chiffres qu'on a, on se rend compte que si on prend juste les moins de 30 ans, les écarts tendent à diminuer. Par exemple, un des exemples les plus évidents, c'est au niveau de la musique métal. Pour tous les âges, on a 3 fois plus d'hommes qui en écoutent que de femmes. Et si on prend que les moins de 30 ans, c'est 2 fois plus d'hommes. Donc c'est un rapport... beaucoup plus faible. Et si on prend la pop, il n'y a plus du tout d'écart. Il y a autant d'hommes que de femmes qui en écoutent de moins de 30 ans, alors que il y a presque 10 points de différence si on prend tous les âges.
Justement, là, sur les exemples du métal et de la pop, est-ce que tu dirais aussi que c'est lié l'écoute et les musiciens sur scène, plus des hommes dans le métal que des femmes, et donc dans la pop, plus des femmes ?
Alors ça peut l'être parce que en tant que public et qu'auditeur, on a tous besoin de modèles pour se construire. Et même si beaucoup de femmes ont pris des hommes pour modèles à cause de la profusion d'hommes dans le secteur, c'est vrai que la chanson notamment a laissé une plus grande place aux interprètes femmes. On peut penser à des vieux exemples comme Colette Renard ou alors à Edith Piaf. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait des femmes qui soient présentes sur la scène, ça peut donner aux femmes qui font partie du public un meilleur modèle. Et il y a aussi plusieurs artistes femmes qui se sont émancipées grâce à leur pratique de la musique. On peut penser à Barbara avec sa chanson qui explique ce qui s'est passé dans son enfance, L'Aigle Noir. Et on peut aussi penser à Nina Simone qui avait repris une chanson de Screaming Jay Hawkins. C'est un standard qui s'appelle I Put a Spell on You, qui répète l'appartenance du corps de l'autre tout au long des paroles de la chanson. Et quand ça a été repris par Nina Simone, ça a fait scandale parce que c'était la première fois qu'une femme disait que le corps d'un homme était à elle.
Donc d'une certaine façon, ça permet de voir qu'il y a un changement de discours aussi, véhicule voilà, des caractéristiques genrées. On va chercher un type de sonorité plutôt qu'un autre.
Le phénomène du genre est bien plus transcende la question de la musique. Par exemple, on va associer les sonorités douces et les sonorités qui appartiennent au monde du rêve à la féminité, mais c'est parce que c'est des notions, la douceur et le rêve, qui sont associées à la féminité dans toutes les thématiques artistiques. Et on va, dans le même sens, on va associer la brutalité et l'entrée en force sonore à la masculinité, mais c'est parce que ça fait partie de l'identité masculine d'une façon générale. Mais ça me fait penser que y a quand même une grande partie des musiciens qui ont, surtout dans la mouvance des années 70 où on a remis en cause toute la société, qui ont questionné le genre. On peut penser au glam rock avec David Bowie par exemple. Je pense qu'avec le temps, il y aura de moins en moins une musique de filles et une musique de garçons parce qu'on éduquera de moins en moins les enfants par rapport au fait qu'ils soient une fille ou un garçon. J'espère qu'avec le temps, ça va se traduire dans les pratiques culturelles et notamment dans la musique.
Oui, justement, parce qu'il y a peut-être une recherche d'identité sexuelle à travers la musique aussi. Donc, dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es.
C'est vrai que ça existe et je pense que... Mais ça, c'est plutôt de mon expérience. Je pense que ça existe plus dans les milieux où on n'écoute pas beaucoup de musique que dans les milieux où on est très mélomane. Parce que moi, plus j'ai grandi et plus j'ai aimé la musique, moins je me disais que les garçons écoutaient une musique différente de moi. Je me disais que la différence était plus entre les mélomanes et les non-mélomanes plutôt qu'entre des hommes et des femmes.
Et dans le monde de la musique, est-ce que justement cette qualité d'écoute qui fait que il n'y a pas forcément une musique pour les filles, une musique pour les garçons. Est-ce que ça se traduit justement aussi chez les musiciens? C'est-à-dire que est-ce que la musique est un domaine bien partagé?
Alors, partagé, oui. Bien partagé, je ne pense pas. Tout simplement parce qu'il y a encore des instruments qu'on prête plutôt aux filles, comme la flûte traversière et un peu la clarinette aussi. Et il y a encore dans les postes de pouvoir, si on pense par exemple au chef d'orchestre, il y a très très peu de femmes qui sont représentées. Si on pense au milieu du jazz par exemple, la plupart des femmes sont cantonnées au chant et pas à l'interprétation instrumentale. Mais c'est pareil, je pense que depuis une petite dizaine d'années, ces questions-là sont en train d'être ébranlées et qu'on voit des femmes arriver dans les sphères de pouvoir ou prendre des instruments qu'on semblait ne pas leur être destinés. Les frontières bougent, il y a quand même de l'espoir.
Tu pars quand même du principe que finalement il faudrait pas tellement une musique pour les filles et pour les garçons.
Ah oui, je défends l'idée qu'il y ait une musique pour les êtres humains et qui les aide à s'émanciper et notamment à s'émanciper de ces questions d'une séparation tout à fait arbitraire qui a été décidée tellement longtemps avant nous qu'on a l'impression de ne pas la contrôler, mais je pense qu'on peut reprendre le contrôle et décider que ce ne soit plus une séparation légitime.
D'accord. Bah, merci beaucoup, Bérangère.
Mais de rien.
C'était donc Bérangère du Jardin au micro de Marie Boucher de On va vous chercher des noix sur Radio Campus Paris.
Résonance.
Résonance magnétique.
Et il est 21h38 sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours dans Résonance magnétique avec vous jusqu'à 22h30. Bah ouais, encore presque une heure avec vous en votre compagnie. Alors, est-ce que vous avez retenu quelques informations, des choses qui vous ont un peu titillé dans ce qu'a dit Bérangère Dujardin dans l'interview de Marie ?
Titillé.
Ramoncho Mata.
Non, moi, ce que je remarque, c'est que en général, les garçons qui font de la musique, ils font de la musique parce qu'ils ont des problèmes.
Oui.
À se relationner, etc. Et que les filles ont peut-être moins de problèmes à se relationner. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas besoin d'un instrument de musique pour séduire l'autre. Parce que la musique, c'est avant tout un instrument de séduction.
Tu penses à ces jeunes hommes qui font de la guitare sur la plage pour séduire des jeunes filles autour du feu ?
Non, mais j'ai l'impression que la musique partout, depuis le début, c'est quand même une histoire de séduction.
Oui, bah oui, c'est une histoire de séduction.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que finalement il n'y a pas de distinction homme-femme, mais plutôt une distinction personne qui aime la musique, personne qui ne connaissent pas bien la musique.
Oui,
finalement, ce serait l'érudition dans la musique qui permettrait de faire la différence.
Ça, je pense que c'est important. Si on a écouté de la musique, si on a baigné dans une ambiance musicale, on est attiré par la musique. Sur des gens qui n'écoutent pas de musique chez eux, c'est rare quand ils se mettent à écouter de la musique tout seul. Bon, il y a des contre-exemples. Hein. Il y a toujours des. Il y avait l'exemple de Alfred Brendel, le fameux pianiste, qui était dans une. Ses parents tenaient un hôtel et ils n'écoutaient absolument pas de musique chez eux. Et un jour, ils ont acheté pour l'hôtel une platine disque. Et il a découvert ça, il a mis des disques et il a trouvé ça absolument extraordinaire, alors qu'il n'avait aucune culture musicale. Et ça lui a donné envie d'essayer. Donc il y avait un piano qui traînait, il s'est mis au piano et il s'est avéré qu'il était absolument génial et qu'il avait l'oreille absolue. Et c'est devenu Alfred Brendel. Donc il y a des contre-exemples comme ça, mais comme il y en a dans la peinture, comme il y en a dans tous les arts. Mais je pense quand même qu'en général, quand on baigne dans une ambiance musicale, bon, on aime la musique et puis c'est tout.
Comment on s'éduque à la musique alors ? Est-ce qu'on peut nous-mêmes faire un travail pour essayer de découvrir comment on découvre, comment on apprend à aimer des choses qu'on n'aimait pas forcément ou qu'on ne connaît pas forcément ?
Bon, alors ça, il y a une histoire de curiosité. Il y a des gens qui écoutent de la musique, il faut que la musique soit plaisante. C'est-à-dire ce qu'ils écoutent à la radio, je sais pas, bon,
que ce soit connu.
Les tubes, que ce soit connu, donc ça leur plaît, ils ne vont pas chercher plus loin. Or, moi, j'ai toujours pensé que la musique intéressante, c'est la musique difficile. Or, plus elle est difficile, plus elle reste. Plus on a envie de creuser, moins on comprend pourquoi, comment ça marche, etc. Ce qui est exactement la même chose pour les arts plastiques. C'est-à-dire, c'est plus facile de voir, je ne sais pas, un Bernard Buffet ou une photo qui se décharge tout de suite, plutôt qu'un tableau de Picasso qui est infini ou un tableau de Nicolas Poussin. Donc c'est bien pareil dans tous les arts. C'est une question de curiosité et je pense que plus c'est difficile, plus c'est intéressant. Mais
c'est une question de généalogie, aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'il faudrait très tôt faire comprendre qu'il existe des arborescences et des musiques qui s'ancrent dans un développement profond. Il y a des musiques superficielles qui sont là que pour vendre et pour occuper le vide existentiel des gens.
Et rapporter de l'argent à des grandes compagnies.
Et il y a des musiques qui sont là pour nourrir notre âme et nous rendre plus riches dans la vraie valeur du sens, c'est-à-dire être capable de fabriquer de la chance autour de nous. Mmh. Et la musique est avant tout un outil pour éveiller cette curiosité-là, comme les arts plastiques. L'art plastique est indispensable pour faire les individus entiers.
Est-ce que vous pensez du coup que la musique, cette éducation dans la musique, cette éducation à essayer de comprendre la curiosité dans la musique, c'est un truc qu'on apprend plutôt aux garçons qu'aux filles ? Ou est-ce que finalement les garçons seraient plus curieux ou...
Non, je pense pas. Mais il y a aussi une histoire de groupe. C'est-à-dire quand on va au lycée, il y a des gens qui écoutent de la musique, on écoute la même musique qu'eux, puis tout d'un coup ça crée un groupe et on s'éduque un peu à la musique comme ça. Alors après, il y a ceux qui continuent à écouter la musique et puis ceux qui arrêtent. Moi, j'ai souvent remarqué que les gens, jusqu'à leur baccalauréat, grossièrement, ou leur premier boulot, ils écoutent de la musique, ils sont adolescents, ils sont dans un truc de musique, on écoute ceci, cela. Et puis à un moment, ils ont des gosses, ils sont mariés, ils arrêtent totalement d'écouter de la musique. Et ils n'écoutent plus jamais de leur vie entière de la musique, sauf à la radio, etc. Mais ils n'ont pas une passion, ils n'achètent pas de la musique, ils vont pas au concert, etc. Donc c'est... Après, c'est autre chose. C'est là, après, c'est une question de curiosité, d'approfondir.
Mais ça fait partie, à mon avis, des espèces de mythes micro-fascistes qui voudraient dire qu'il y aurait un âge où on serait libre, il y a un âge où on serait poète, où on serait séducteur, Et puis après, il faut rentrer dans les clous.
Voilà.
Alors qu'on sait qu'être adolescent, ce n'est pas un âge biologique. Dans la même journée, on peut être pendant une heure adolescent, pendant une heure un vieux con. Et seulement, il y a des gens qui restent scotchés à leur rôle pour se prémunir de toute attaque d'irrationalité.
C'est ce que Sartre appelle les salauds. Pleins d'êtres.
Ben, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je crois que cette importance de la musique, c'est justement garder cette zone qui est celle du péril, qui est celle du non-connu, du non-explicable. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de musiciens et je leur demandais, mais vous connaissez l'harmonie et tout ça? Et la plupart, mais vraiment la plupart, et même des très très grands, m'ont dit non, on veut garder une part de mystère dans ce qu'on fait.
C'est comme un magicien?
Ou un sorcier.
Une sorcière, peut-être.
Alors la sorcière, ça c'est une autre histoire que Martine m'a racontée l'autre jour.
Martine qui est?
Martine, c'est une présidente étonnante, une espèce de présidente de la conscience que nous rencontrons parfois dans les rues de la campagne et parisienne, qui disait qu'en fait, l'histoire de la sorcière, en fait, les premières sorcières qui ont été brûlées, c'était les femmes qui n'étaient pas soumises aux règles du foyer. Et on disait, c'est une sorcière.
Oui, bien sûr, on a toujours eu peur des femmes pas soumises. D'ailleurs, dans la musique aussi, j'imagine, on a quand même cette crainte. Enfin, finalement, les femmes ont appris la musique un peu tardivement. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on a accepté que les femmes fassent de la musique hors du foyer, en tout cas hors de la sphère familiale et interne à la maison, tardivement. Ça prend du temps. Enfin, c'était pas évident que les femmes aient le droit d'aller jouer, faire du concert, etc.
Faire du concert, non, mais la berceuse, c'est quand même maman.
Oui, mais c'est à l'intérieur encore, c'est à l'intérieur du foyer. Tu peux, si tu veux, faire un peu de piano, c'est mignonnet, mais de là à aller te montrer sur une scène, c'est compliqué, quoi, tu vois.
Mais il y a l'histoire de Clara Schumann, qui était dans son mari, Robert Schumann, était quand même un très grand musicien. Elle, c'était une sublime musicienne, qui était, à mon avis, bien meilleure que Schumann, et elle a été complètement, elle a totalement arrêté de jouer parce qu'elle était la femme de Robert Schumann et qu'il refusait qu'elle compose. Donc on lui a coupé les ailes, vraiment. Elle lui a pas dit merde. À l'époque, on disait pas merde. C'est affreux.
Bah oui, c'est affreux. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, et on le disait, enfin, ce que disait Bérangère du Jardin, c'est que ça change quand même. Effectivement, aujourd'hui, on voit des filles qui sont, qui peuvent être très libres, qui peuvent faire la musique qu'elles veulent. Il n'y a pas des genres qui sont réservés à des hommes, des genres qui sont réservés à des femmes. Si une fille veut faire du punk, elle peut aller faire du punk. Si elle veut faire de la musique classique, elle peut faire de la musique classique. Étienne.
Il y a même des groupes entièrement constitués de filles, alors que ça ne pouvait pas être possible, je pense, il y a plusieurs dizaines d'années, non ?
Les Spice Girls, c'est bien une dizaine d'années.
Non, mais il y a plus...
Mais bon, les Spice Girls, c'est la qualité que ça a.
Oui,
mais effectivement, il y a ce côté. Mais en même temps, les groupes exclusivement féminins, c'est aussi justement pour mettre une barrière, de dire c'est tellement compliqué de jouer avec des hommes qu'on décide de jouer entre femmes, quoi, quelque part. Il y a même des concerts avec des DJ sets aussi, ce genre de choses, où c'est le public est exclusivement féminin. C'est-à-dire qu'il y a des groupes à Paris, des associations, etc., qui jouent pour des publics uniquement féminins, dans l'idée que les mecs, c'est chiant, que quand t'es en boîte et qu'il y a des DJ, etc., les mecs, ils te passent toujours devant pour aller chercher leur verre, ils te poussent, ils sont désagréables, ils te draguent lourdement, et donc du coup, finalement, entre filles, on est beaucoup mieux. Donc il y a quand même une sorte de résistance des femmes au masculinisme ambiant, quoi, quelque part.
Les Beatles, ils jouaient pour un public pratiquement exclusivement féminin, parce que quand on entend les cris dans les concerts...
D'ailleurs, quand j'ai cherché les cris de concert, je suis tombée sur des cris de fans de Justin Bieber. Oui, voilà. C'est quand même autre chose que les Beatles. Mais effectivement, il y avait des images des fans. Merci, Étienne. Il y avait des images des fans des Beatles où il y avait beaucoup de femmes qui s'évanouissaient comme ça. Je pense que c'était un peu les Beatles, les premiers noms à faire comme ça, ce truc aussi énorme chez les fans, avoir cette réaction hystérique quasiment des
fans. Il y avait Elvis quand même.
Il y avait Elvis, c'est vrai. Et Patrick Bruel après, mais bon, ça c'est pas la même chose.
Il y avait le fameux Castra, comment il s'appelle ? Farinelli.
Farinelli ?
Farinelli, il déclenchait des évanouissements, c'était... tout le monde voulait l'approcher, enfin c'était absolument phénoménal, donc c'est pas nouveau, hein, tous ces
trucs-là. C'est pas nouveau. Donc c'est-à-dire que, en revanche, les hommes ne s'évanouissent rarement, ou jamais, quasiment jamais, quand ils voient leur idole masculine ou féminine.
Mais peut-être que les hommes n'ont pas accès au plaisir, en fait.
C'est tellement triste, cette émission. Enfin, c'est triste pour vous, finalement, quelque part. Il y a aussi d'ailleurs des festivals, d'ailleurs, on est partenaire à Radio Campus Paris d'un festival qui s'appelle les Femmes s'en mêlent, j'y arrive plus, je m'en mêle moi aussi les pinceaux, les Femmes s'en mêlent, qui est un festival où on va faire jouer uniquement des artistes féminines, puisque artiste, cette pratique, c'est un mot qui marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes, il n'y a pas besoin de le féminiser. Et donc l'idée, c'est de mettre en avant aussi, parce qu'on met rarement en avant, malheureusement, des artistes féminines. Il y a, quand on prend les listes des festivals, par exemple, on voit que dans tous les artistes qui vont jouer, le programme d'un festival, il y a quand même vachement plus d'hommes que de femmes qui sont mises en avant.
Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, ça ne s'est pas inversé. Je parle dans la musique populaire, dirions-nous, il y avait quand même il y a eu Blondie à une époque qui a été quand même une star absolue.
Patti Smith, Janis Joplin,
il y a eu Amy Winehouse qui était quand même
Madonna,
quand même. Enfin, quand même, c'est.
Il y en a quand même, oui, aujourd'hui, il y en a les Beyoncé et compagnie, mais effectivement.
On parlait de Barbara, enfin de.
Mais c'est souvent des interprètes, c'est pas forcément des compositrices.
Ah bah elle composait,
Barbara, oui, par exemple.
Amy Winehouse, je sais pas.
Amy Winehouse aussi.
Je crois qu'elle. Je connais pas.
Janis Joplin aussi.
Ouais. Oui, bah en fait, celle qui reste, c'est celle qui composait. Les interprètes, on les oublie peut-être à force, non?
Oui, parce que c'est que des marionnettes. C'est comme les interprètes mâles. Mais de toute façon, si on veut vraiment comprendre la différence entre les filles et les garçons, il y a un livre à lire absolument indispensable.
Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent... Non,
non, pas du tout. C'est un livre dont j'ai oublié le titre, mais l'auteur...
Ah ça va être utile, ça.
C'est Gérard de Villiers, non, l'auteur?
Non, c'est Lucien Israël. Et il explique très bien qu'il y a finalement très, très, très peu de différence, sinon pas.
Entre les hommes et les femmes?
Oui.
Ça dépend pour... Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des... Parce qu'il y a une différence, qui est celle de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, les femmes, on les a cloisonnées à l'intérieur et puis les hommes, on les a laissées sortir. Donc finalement, cette différence, elle a été sociale.
Mais ça, c'est l'histoire récente. C'est l'histoire d'il y a 2000 ans. Oh. Il existe une histoire. Moi, j'ai lu un livre l'autre jour de l'histoire sur Terre il y a 23 000 ans. C'était vraiment la femme qui dominait tout. Les hommes se sont vengés en éliminant toute trace du passé.
C'est ça.
Mais c'était vraiment les femmes qui dirigeaient tout. Et la preuve de ça, c'est les chats qui sont autour de nous toute la journée.
Et les sociétés matriarcales, toutes ces femmes qui gouvernent le monde finalement. Hein. Mais d'ailleurs, il y a quand même, parce qu'on a parlé donc des musiciens, des musiciennes, des auteurs, des compositeurs, on n'a pas parlé de l'engagement politique et social des artistes, musiciens, chanteurs, etc. Et donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui des femmes, ou est-ce qu'il y a eu des femmes, je connais déjà la réponse, mais des femmes qui ont cette voix politique, voix OX politique, qui ont eu un message politique et social à faire passer, qui ont finalement fait bouger certaines choses avec la musique.
Joan Baez, par exemple. Joan Baez, elle a fait quand même un boulot incroyable dans les années 60-70.
Mais est-ce que finalement, ceux qui font bouger les choses, c'est pas ceux qui ont un grand aspect féminin?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on prend les personnes importantes dans la musique qui ont fait bouger la société. Bob Dylan, il est assez féminin. Lou Reed, il est assez féminin.
C'est quoi, assez féminin?
Féminin, c'est-à-dire, c'est affirmer sa sensibilité. Ne pas être là, derrière un masque de masculinité, pour faire croire que...
Viril, rebelle.
Ouais, mais plutôt essayer de faire comprendre des choses d'une façon plus subtile, moins frontale.
C'est-à-dire qu'encore une fois, on se dit, le féminin, la sensibilité, c'est féminin, et le reste, c'est masculin. Enfin, tu vois,
Le féminin n'a rien à voir avec la sexualité.
Puis il y a une part féminine chez chaque homme, et il y a une part masculine chez chaque femme. Enfin, je veux dire, il suffit de la révéler, de la faire sortir.
Oui, mais c'est ça. En fait, finalement, il faudrait changer de vocabulaire et arrêter de dire il y a du masculin, il y a du féminin.
De toute façon, le vocabulaire est absolument impropre à l'expression.
Mais il est restrictif de toute façon.
C'est pour ça que tu avais Cathy Barbarian.
non, là j'ai Rose Murphy.
Ah, alors Rose Murphy, c'est l'idole absolue, à la fois pianiste et chanteuse.
Voilà, pianiste.
Alors il faut demander aux auditeurs d'imaginer la tête de la personne qui va chanter.
Oui.
D'accord. Et alors, si c'est une idole, on peut crier un peu? Vous pouvez crier en tant que... On n'a pas d'homme qui crie comme ça, de manière hystérique. Vous pouvez faire un petit « ah » pour voir. Ouais, ça marche quand même pas très bien. Étienne, on y va?
« What to do, what to do? I'm so blue without you, baby. Tears will fall, I recall, precious time so sublime, baby. Oh, your warm embrace and your lovely face, lips so soft and sweet, my heart skipped a beat. Ho, ho, ho. Oh, my soul cries for you, for my love is so true, baby. There's so much to your touch when you're near, you're so dear, baby. I see you everywhere, for I really care. Oh, what to do, what to do? I'm so in love with you. To do, I'm so blue without you, baby. Tears will fall, I recall, precious time so sublime, baby. Oh, your warm embrace and your lovely face, so soft and sweet, my heart skipped a beat. Ho, ho, ho. Oh, my soul cries for you, for my love is so true, baby. Yes. There's so much to your touch when you're near, you're so dear.
Voilà, Rose Murphy, pianiste et chanteuse. C'était le morceau appelé What to Do. Il était enregistré le 22 juillet 1980. Elle avait 67 ans. Alors, sa voix aiguë lui avait valu le surnom de The Squeak, donc le grincement. Et puis, en vieillissant, elle s'est mise à, enfin, en avançant dans son art, elle s'est mise à remplacer les paroles des chansons par des onomatopées. Et donc, on l'appelait Chichi Girl. Et ça, c'est le surnom qui lui est resté. Et ce qui est assez drôle, c'est que Marilyn Monroe s'est inspirée d'elle pour certains lame shows. Elle a calqué sa voix sur celle de Rose Murphy. Donc il y a un timbre très très particulier et donc qui est compositrice. Donc c'est vraiment, le morceau a été composé par elle. Voilà, ce qui est suffisamment donc rare dans le jazz pour le souligner. Il y a une autre pianiste que j'ai pas amené ici, mais qui s'appelle Mary Lou Williams, qui est aussi pianiste. Mais c'était un peu plus compliqué de faire écouter un morceau, parce qu'en général, c'est des morceaux qui font une face entière de disque. Donc, bon, c'était peut-être un peu long. Voilà.
Pour une prochaine émission. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir à Étienne qui a fermé les yeux et a profité de cet instant, n'est-ce pas ?
Oui, oui, c'est exact.
On t'a vu de loin derrière la vitre, là, comme ça. Tu as éteint la lumière et tu t'es mis dans l'ambiance, quoi. Ramoncho, je crois que tu as quelque chose à nous lire.
Ma mère me mange, me torture. Et pour m'empêcher de la suivre, elle m'enterre. Je mange ma famille, je crache sur leurs débris, je hais leur maladie funambulesque et leur hallucination de Louis. Prenez garde aux dentifrices qui blanchissent sans détruire. Mieux vaut s'égayer en dévorant les siens que de marcher à quatre pattes, boire ou essayer de plaire aux filles. Joyce Mansour, encore.
Encore. C'est le recueil de Joyce Mansour ce soir.
Ben, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une. Il y a quand même une différence. Malgré tout ce qu'on a dit tout à l'heure.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que, par exemple, une femme poète va parler d'autre chose.
Est-ce que ce n'est pas juste que parce que tu es un homme et que finalement tu le reçois autrement ?
C'est toi seul peux me le dire. mais dans les thématiques qui nous encerclent, j'ai l'impression que, par exemple... J'ai deux disques devant moi, un de Laurie Anderson et un de Hiroko Komiya. C'est quand même des sensibilités qui, à mon avis, ne pourraient pas être... Qu'est-ce qu'on peut dire à la part masculine ?
Il faudrait trouver autre chose.
Mâle.
Couillonesque.
Couillonesque. Oh, couillonesque. C'est quoi ? Oh, couillon. Oh, con.
Mais non, parce que c'est curieux, quoi. C'est une façon d'organiser les sons, c'est une façon d'organiser les mots, c'est une façon qui n'est pas, je veux dire, Rimbaud, on sent que c'est un garçon. Non, je me trompe.
Et Louise Labbé, oui. On sent que c'est une femme. Les poèmes de Louise Labbé sont quand même pas...
Ouais, non, c'est compliqué, hein, cette histoire, quand même. Hein. C'est toujours un peu difficile. Mais en même temps, oui, je pense qu'il y a quand même une manière...
Moi, j'ai discuté... Merci, il y a une différence entre les hommes et les garçons. Parce que
les hommes et les garçons.
Moi, je pense que c'est vachement... C'est très bien qu'il y ait une différence entre les uns et les autres. C'est une façon de se respecter. S'il n'y a plus de différence entre les gens...
C'est surtout la différence entre les hommes et les garçons.
Non, mais alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on dit souvent... On dit la musique de filles et on dit pas la musique de garçons, on dit la musique d'hommes, tu vois. Il y a quand même un truc genre les filles, ça fait penser aux jeunes filles et les hommes. Et les hommes et les filles.
Et il y a pas de la musique de femmes.
Voilà. C'est quoi la musique de femmes ? Est-ce qu'on en parle pas ? Mais les femmes, une femme finalement c'est comme un homme, c'est pour ça. Sinon, peut-être c'est ça en fait. Est-ce qu'il y a une question on renvoie les femmes à une sorte de minorité. Elles sont mineures. Elles sont des enfants. Bah finalement, ces femmes, elles ont besoin d'être éduquées encore.
Bah les femmes passées 30 ans n'ont plus d'utilité dans la société. On sait bien que passées 30 ans, elles auront du mal à trouver un travail. Passées 40 ans, ce sera encore plus dur.
Surtout qu'elles ne servent plus à faire des enfants. Donc
bah c'est le syndrome de la jeune fille dont parlait... comment ça s'appelait ? Tikkun ? Le parti invisible ? Comment ça s'appelait ?
Le parti... Non.
Oui, ils avaient fait un livre très intéressant qui s'appelait « Le syndrome de la jeune fille ».
D'accord.
Où ils expliquaient clairement que c'était une société... comme disait Gombrowicz, on est arrivé dans une société complètement immature et d'adolescents attardés. On a déresponsabilisé absolument tout le monde.
Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, du coup, on n'aime pas trop les femmes, on préfère les filles.
Ah bah c'est clair.
Et surtout qu'en plus, les filles, c'est mignon, c'est gentil, ça parle pas trop, quoi, c'est ça ? Je sais pas, c'est une question, hein.
Les filles, ça parle pas trop ?
Non, je sais pas, les filles, c'est mignon, tu vois, c'est moins chiant qu'une femme, non ? Enfin, ça s'impose moins, quoi.
Moi, j'ai pas de...
Puis on n'est peut-être pas bons les bons interlocuteurs, parce que nous, on n'a pas franchement de problème avec...
Avec le côté homme-femme.
Homme-femme, non.
On en discutait tout à l'heure avec Philippe au restaurant, il y a un super reportage, donc ça n'a rien à voir avec la musique, mais sur encore cette inégalité, en tout cas ces ruptures entre les hommes et les femmes, donc un documentaire sonore qui a été proposé sur France Culture, qui s'appelle « Les sopranos du barreau », sur le fait qu'il y a, donc, qu'on parle bien toujours, hein, l'expression c'est les ténors du barreau, c'est ces hommes avocats, qui sont grande gueule, qui ont sorti cette gouaille un peu machin, mais en même temps avec un très beau langage, qui sont extrêmement forts en rhétorique et qui sont très connus et qui défendent en général les plus grands criminels, etc. Et des femmes qui font le même métier mais qui sont toujours beaucoup moins mises en avant. Et donc c'était hyper intéressant ce documentaire que je pense qu'on peut encore écouter sur France Culture et qui où les c'était des filles qui le faisaient, effectivement des femmes qui le faisaient et qui expliquaient, avocates et magistrates, et qui disaient non mais en fait le problème c'est que on s'intéresse aux mêmes cas évidemment, mais on n'a pas du tout la même manière de les traiter, et nous en fait on n'a pas du tout envie de que ça soit rendu public, que les médias s'y intéressent, nous on s'en fout, on veut juste travailler avec le client, essayer de faire pour que ça se passe au mieux pour lui. Et puis nous, à la différence des hommes, on n'est pas là pour faire un coup d'éclat et on se barre ensuite, mais on est là plutôt pour être sur la longue durée, donc on travaille vraiment avec le client, en tête à tête, sans journaliste autour, et puis à la fin, quand, peu importe ce qui se passe, qu'il aille en prison ou qu'il se passe rien finalement pour lui, voilà, qu'il soit relaxé, et ben on va continuer à l'appeler, à lui demander comment ça va, s'il gère bien, etc., etc. Donc effectivement, peut-être quand même dans ces métiers-là, différentes manières de travailler, et donc chez les musiciens et chez les musiciennes, différentes manières de concevoir la musique et de la fabriquer quelque part.
Peut-être qu'il y a une grande différence là entre la jouissance et le plaisir.
Il y a l'ego peut-être aussi, c'est des histoires d'ego.
De non, mais c'est-à-dire que quand ce que vient de dire Mélanie est assez juste, finalement, les morceaux de musique auxquels je pense quand ils sont féminins, ça peut être Eliane Radigue, ça peut être Meredith Monk, ça peut être... C'est des morceaux qui s'installent dans une durée et pas dans une jouissance, dans un plaisir qui s'allonge, plutôt que dans une fulgurance qui serait là pour impressionner l'autre.
Les femmes n'ont pas envie d'impressionner l'autre, peut-être.
Bah, c'est inutile d'impressionner l'autre.
C'est juste que ça dure peu. C'est ça la problématique.
Alors dans le sport, c'est peut-être un contre-exemple, mais les femmes se comportent comme les mecs. Quoi. Je veux dire, quand il faut au tennis une Serena Williams ou les fameuses sœurs Williams, c'est quand même...
Elles prennent des hormones masculines.
C'est monstrueux, quoi. Il y avait la fameuse histoire de la championne de ski qui était suisse, si mes souvenirs sont bons, qui avait gagné les Jeux Olympiques contre Marielle Guachel, et c'était en ski. Et on a découvert que c'était un type, en fait, mais elle ne le savait pas elle-même. Enfin, je veux dire, c'était un truc assez compliqué. Et j'avais vu un reportage à télé où elle avait été invitée, genre 30 ans après, avec Marielle Guachel. Elle avait d'ailleurs rendu son titre. Et c'était drôle parce qu'on avait un type en face de nous. Enfin, c'était plus du tout. Il y avait les images de l'époque et puis le type qui arrivait. Et c'était assez sidérant quand même. Ça, c'est assez marrant. À l'époque, c'était une femme, quoi. Donc.
En tout cas, ce qui est évident, c'est que dans la question de la compétition, il n'y a pas de différence de sexe. Je pense qu'effectivement, les hommes et les femmes sont dans la même compétition.
Je pense qu'ils sont aussi hargneux, les femmes en foot, on parlait de football féminin, elles sont aussi hargneuses que les types.
Mais parce que la compétition n'a aucun intérêt, de toute façon.
Oui, bien sûr, mais en même temps, tu sais, sur cette question, même simplement quand tu vas voir, si on interroge la compétition capitaliste dans un travail de faire carrière, je pense que les femmes sont aussi hargneuses que les hommes sont aussi hargneux que les femmes. Enfin, il y a cette question de compétition qui va entrer en jeu, et à partir du moment où on les lance au même moment et qu'ils ont la même envie et à vouloir atteindre le même but, peu importe qu'on ait affaire à un homme ou à une femme, on arrivera quand même à peu près à la même chose, quoi, au même comportement.
Oui, c'est la compétition en fait qu'il faut tuer.
C'est minable. Il faut éliminer le sport et la compétition.
Éliminons toute compétition, ça ne sert plus à rien.
Histoire de ceux qui pissent le plus haut, non, ça n'a jamais été. C'est pas.
Mais ça, pour coup, les femmes sont défavorisées pour pisser le plus haut, c'est quand même plus compliqué. malheureusement. Il y a quand même quelques critères physiques qui demeurent.
Ah, bah oui, il y a des différences. Dieu merci, il y a des différences.
Est-ce qu'on écoutera encore autre chose?
Alors, oui, on peut écouter Patty Waters. Alors ça, c'est une chanteuse blanche de jazz qui est née en 1946. Alors au début des années 60, un certain Albert Taylor l'a entendu chanter dans un club et il était complètement sidéré. Et il l'a présenté à Bernard Stallman, qui est donc le directeur du label, du fameux label free jazz ESP Disc. Et donc elle y a enregistré deux albums, dont College Tower en 1966, qui est son album le plus connu. Et ce morceau qui s'appelle Song for Clifford, qui est vraiment complètement cinglé.
Et ESP Disc, c'est vraiment le label le plus incroyable qui est connu le XXe siècle. Et il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps de Jason Weiss qui explique comment ce type a réussi à faire autant de miracles musicaux afin d'enrichir nos palettes perceptives.
C'est joli, ça.
Ah.
for Clifford de Patty Waters.
Résonance magnétique. Elle est pas mal, cette petite virgule. Il est 22h11 sur Radio Campus Paris. Eh bien, on a plus que 20 minutes pour cette émission. Vous pouvez toujours nous appeler, parce que personne ne nous a appelé. On est un peu triste.
D'après moi, personne ne m'écoute.
Bah, peut-être que personne ne nous écoute. Si vous nous écoutez, appelez-nous juste pour nous dire je vous écoute. Comme ça, ça nous fera quand même plaisir. 01 72 63 46 84. 01 72 63 46 84. Je crois qu'il y a ta fille qui t'écoute, Philippe.
Tu veux que j'appelle ?
Elle pourrait nous appeler quand même, ta fille, peut-être.
Joséphine, appelle-nous.
Voilà, Joséphine, appelle-nous. Si tu nous entends, appelle-nous. Alors, on continue un petit peu à papoter, hein, finalement, sur cette question du genre dans la musique. On ne s'est pas demandé encore si, finalement, on ne devrait pas dire le musique. Pourquoi on dit de la musique ? C'est quoi cette idée là ? Pourquoi la musique serait féminine ?
En fait, il y avait une muse qui avait le hockey, donc elle a fait hic, ça fait la musique.
La muse hic.
Mais il y a un livre très intéressant, d'ailleurs, dans les genreuses. C'est ça, les gens qui étudient le genre, c'est des genreuses.
C'est les gender studies.
Oui, mais c'est les genreuses en français.
Oui, c'est un peu genreuse.
Alors, il y a cette dame qui s'appelle Hathaway. Vous avez lu ça ?
Oui.
Ouais.
Non, je crois pas. Non, j'ai dit oui par réflexe, tu sais.
Ça s'appelle des singes, des cyborgs et des femmes.
Ouais.
Et c'est vraiment chouette sur le rôle du
singe.
Du singe dans la société.
le singe musicien, le singe orchestre, par exemple.
Voilà.
Et le cyborg, c'est qui ?
Ben, le cyborg, c'est justement cette espèce de personne qui n'est plus finalement incarnée, qui n'a plus de chair.
Michael Jackson ?
Oui, ça peut être Michael Jackson ou Johnny Hallyday.
Mm. Il n'a plus de chair, Johnny Hallyday ? Oh, un peu, quand même.
Tu crois ?
Oui.
Donc j'ai amené un livre, ouais. Parce que je trouve qu'à la radio, il n'y a rien de mieux que de montrer un livre.
Alors voilà,
c'est un livre sur Chicks and Speed, qui est un groupe berlinois.
Qu'on ne peut pas écouter puisqu'on n'a plus d'accès à Internet, on ne sait pas pourquoi.
Non, mais j'avais amené des CD, puis je me suis dit finalement c'était plus drôle de leur faire écouter le livre. Donc voilà. Vous entendez le livre ?
Ah oui, il y a des belles pages, dis donc.
Il y a des belles pages, mais
elles sont bien accordées.
En plus, c'est bien quand ça grésille un petit peu sur le micro.
Donc, c'est un livre pour le décrire qui est découpé bizarrement.
À l'intérieur, il y a des collages.
Il y a des collages, il y a du papier glacé. Différents. Voilà.
Ça, c'est le papier glacé. Et puis, il y a du papier parfois qui n'est pas glacé.
Offset, on dit. Enfin, non,
c'est l'offset ?
Oui, on a pas.
Alors, celui-là n'est pas glacé, vous voyez, c'est différent.
C'est finalement, on dirait un scrapbook.
C'est vrai. Ah. Et sur la couverture, il y a des dessins découpés un peu.
Oui, on dirait des cochons.
C'est un amas de seins, on ne sait pas très bien ce que c'est.
Il y a une femme à 1, 2, 3, 4, 5, 6 seins.
6 ouais.
Six seins, et l'autre qui se tient les seins comme si c'était des...
Des seins.
Des cojones.
Tu préfères le dire en espagnol.
Alors, est-ce qu'on peut dire que toi qui fais partie de la chose, est-ce que c'est une mise en page féminine ?
Non, c'est plutôt non. Ça ressemblerait plutôt à une mise en page de fanzine.
Fanzine
Oui, fanzine punk, de scrapbook, entre le scrapbook et le fanzine. Ça fait très années 80, il y a un côté photocopie. Non, c'est pas typé. Pourquoi ce sont des filles qui ont fait...
Elles ont tout fait, elles revendiquent le de n'être que des filles.
Non, franchement, non, j'aurais pas pu donner un genre à ce livre.
Comme
donc
quoi
en graphisme, on ne peut pas identifier...
Moi, j'ai du mal. Alors, franchement, en graphisme, je ne peux pas te dire. C'est fait par un type, c'est fait par une fille.
En revanche, les filles ne peuvent pas faire ça.
Ben, ça dépend où.
Oui, mais sur la barbe, ça marche moins bien. C'est joli, un petit
crissement. La femme à barbe, la fameuse.
Il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, elles sont montrées comme des monstres, ces femmes à barbe.
Oui.
C'est compliqué d'être une femme à barbe aujourd'hui.
D'ailleurs,
hier aussi.
L'homme travesti, c'est aussi pratiquement un monstre. Enfin, je veux dire, dans la société, c'est pas spécialement bien reçu.
Pour l'instant encore.
Et par exemple, si on prend une plasticienne, Carole Rama, elle a été absolument extrême à tous les niveaux. Il y a quand même une féminitude.
Mmh. Parce que la femme ne peut pas être extrême, tu crois ?
Non, mais je veux dire que je pense qu'elle peut être extrême, mais je cherche un équivalent masculin. Et je trouve pas.
Castro-Rama, non ?
Non, mais je veux dire, quelqu'un qui soit capable d'exprimer tous les aspects scato, machin, montage, etc. Ouais. Mais qui les fait toujours avec une espèce de...
Pasolini a fait quand même...
Non, mais peut-être que j'idolâtrise trop la question d'être femme par rapport à être homme.
Peut-être que tu aimerais être une femme.
Mais ça, c'est clair.
Ouais.
Bah il y a un bouquin dans Petrolio, justement, je citais Pasolini, à Salo, évidemment. Mais dans Petrolio, il y a une scène absolument extraordinaire dans ce bouquin, qui d'ailleurs est pratique, parce que le bouquin est énorme.
Je crois qu'ils vont le rééditer.
Oui, parce qu'ils ont retrouvé encore, ils le rééditent pratiquement tous les 5 ans, parce qu'ils retrouvent toujours, comme c'est un livre qui n'était pas fini, ils retrouvent des manuscrits, donc ils l'augmentent chaque fois. Moi j'ai la première édition, après il y a une deuxième édition qui a été augmentée, une troisième, enfin bref. Et Pasolini, donc dans son film... le bruit des stylos dans son livre se réveille un matin et il s'est transformé en femme et il regarde dans la glace et il est devenu une femme. Donc on sait que Pasolini était homosexuel, c'est assez drôle. Et surtout, ce qui est très très drôle, c'est que ce type, il se dit, je suis devenu une femme, donc c'est un autoportrait, donc je vais aller me faire un maximum de types. Et il descend donc dans les jardins romains et il va se faire un maximum de types en étant une femme, donc il a la sensation d'une femme, etc., mais c'est un homme. Donc le bouquin est complètement... Enfin, ce passage est vraiment... En plus, c'est génialement écrit, parce que c'est un écrivain absolument phénoménal. Et c'est un truc complètement singulier. Dans la littérature, moi, je n'avais jamais lu ça.
Je crois qu'on a un auditeur qui nous appelle, qui est au téléphone avec Étienne. C'est bien ça, Étienne, ou c'est juste que tu passes des coups de fil privés pendant l'émission ?
Non, non, je suis bien avec un auditeur qui officie... je vous le passe.
Oui, ce sera plus simple. Allô ?
Ah, non, il ne veut pas passer à l'antenne. Donc,
ah bon ? Pourquoi il nous appelle alors ?
Il s'est trompé de numéro.
Allô, allô ?
Dites-nous... Oh.
Oui, bonsoir, c'est qui ?
Je m'appelle Emeric.
Oui ? Bonsoir, Emeric.
Et toi ? Et vous ?
Nous, c'est alors, Mélanie, Philippe et Ramuncho.
Ramuncho Mata ?
Tout à fait.
Ah, oh, bah bonsoir.
Bonsoir.
Qui êtes-vous, Emeric ?
Qui je suis ?
Oui.
Je suis quelqu'un qui aime la radio, qui écoute de la radio, qui fait de la radio.
Mm-hmm.
Qui vit avec sa radio en permanence. D'ailleurs, au lieu de chercher quelqu'un pour vivre avec moi, je ferais mieux de me dire que je vais finir avec ma radio, quoi.
Bon, c'est finalement pas si mal.
Vous êtes radiologue ?
Oui, exactement, je suis radiologue, exactement.
Et donc
exactement, je viens de rentrer du café, où je me suis tapé quelques bières.
C'est bien, la bière.
Je cherche une station... une station, c'est pas évident d'entendre des trucs sympas, quoi.
Et là, ça va ? Ça se passe plutôt bien ? C'est plutôt agréable, ou...
Ouais, c'est original, et j'aime bien votre ton et votre esprit en escalier ou en labyrinthe, je sais pas comment on dit.
En labyrinthe plutôt, je pense.
On aime bien tourner en rond.
On dit pas en escalier aussi.
Oh, non. Ben on peut, ouais, aussi, ouais.
L'esprit nu descend dans l'escalier, c'est pas mal.
Et alors, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur ton rapport à la musique ? Qu'est-ce que tu aimes comme musique, Emeric ?
Ben, j'aime particulièrement les choses, par exemple, Petit Water, ce que vous avez passé.
Ça, oui, c'est un connaisseur, ouais. Là, bravo.
Sur Libertaire, il y a pas mal de... Je m'excuse de parler de Libertaire, mais j'écoute...
Ah non, mais c'est des copains, Libertaire.
Ah, ok, merci. Sympa. J'écoute aussi, il m'est arrivé d'écouter la matinale. Puis je suis aussi venu au Festival Brouillage, à la Loge.
Ah bah super.
Ouais, j'ai trouvé que c'était, il y avait des moments très intenses, très beaux. J'ai vécu des très beaux moments. Et puis, je passe, oui, de l'électro. Et puis tout ce qui sort des sentiers battus, comme on disait avant dans les journaux musicaux, entre guillemets. Voilà. Je suis surtout assez axé sur la voix aussi.
D'accord.
Comme Patty Waters, quand la voix traduit autre chose que de gentilles choses.
Oui, elle est expressive, expressionniste, oui.
Est-ce qu'il y a une différence alors sur la musique ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une musique genre féminine et d'autres musiques genre masculines ?
Parce que je l'ai pris en cours, l'émission, donc je ne sais pas trop. C'est de ça dont vous parliez. Alors,
oui, c'est ça.
Ça dont on essaye de parler, est-ce qu'il y a-t-il un genre en musique ?
C'est difficile, hein. C'est difficile. Donc, suis pas sûr, parce qu'il y a des Sigur Rós, par exemple. Vous connaissez Sigur Rós? Tu peux pas savoir, enfin, tu sais que c'est un garçon, mais en même temps, il utilise... Enfin, en même temps, il est homosexuel, donc tu me diras, c'est toujours pareil, mais non, non, c'est... Non, il y a un genre, et en même temps, il y en a pas.
Ouais,
Johnny, c'est très genré, quoi. Johnny, c'est Johnny. Et après, voilà, c'est très genré. Et après, il y a quand même tout c'est comme les humains dans la société. Il y a toutes sortes de couleurs, de saveurs, d'expressions et de...
Donc le genre est une imposture, en fait. L'idée même de définir un genre, ce serait une imposture.
C'est dur, c'est vrai que c'est une question compliquée.
C'est une question compliquée parce que je côtoie le milieu homo, trans, machin, c'est on veut un genre et en même temps, moi, je suis d'accord avec toi.
D'accord.
C'est un peu une... Oui, c'est une imposture, le genre, en fait.
Voilà.
Tu as raison, Ramon Chaud, voilà.
Non, non, mais c'est Aymeric qui a raison, moi, je n'ai rien dit.
En tout cas, merci beaucoup, Aymeric.
Bah de rien.
C'est gentil de nous appeler, ça
fait
plaisir.
C'est super parce qu'on avait l'impression d'être seul au monde.
Voilà, on aime bien quand on n'est pas seul.
Et moi j'avais l'impression d'être terriblement seul ce soir.
Voilà. J'espère qu'on a occupé un petit peu de l'espace vide à côté de toi.
Donc
alors,
on est tous heureux. On a encore un morceau à passer avant de devoir fermer l'antenne.
C'est de la voix. Hein, c'est de
ah,
la voix.
Déjà.
Eh oui.
Bah ouais.
J'aime beaucoup votre dialogue à trois. Je le trouve très sympa.
Merci.
C'est gentil.
Merci.
Bah, tu pourras nous réécouter le mois prochain. On sera encore là. Enfin, peut-être pas Philippe. Bon, si Philippe sera là, peut-être.
Le mois prochain.
Mais pour l'instant, c'est comme ça.
Bon, d'accord.
Mais si tu peux envoyer un mail au directeur d'antenne pour lui dire qu'il faut qu'on passe beaucoup plus souvent à l'antenne et puis il sera certainement ravi de l'apprendre. Mais après, tu peux rester sur Radio Campus Paris. De toute façon, il y a encore plein de programmes. Il y a Future Basics qui arrive dans quelques minutes.
Ouais.
En tout cas, merci de nous avoir appelés, Aymeric.
Bonne soirée. Okay,
bonne soirée.
On tous les trois.
Merci, bisous, bonne soirée.
À toi.
Alors Philippe.
Eh ben, nous allons passer Cathy Berberian, la fameuse soprano, qui a été la femme de Luciano Berio, avec un morceau qui s'appelle Stripsody. Je crois qu'on va le passer et puis on racontera après ce qui se passe. Donc Stripsody de Cathy Berberian.
Les
quoi?
Oui, ça c'est pas mal, hein. Ça commence presque de la même manière.
Boing. You stupid kite, come down out of that tree. Kite, kite, kite. Chomp, chomp, chomp. Clam, clam, clack, 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 clack. Chomp, chomp. Crunch, crunk, crack, crackle. Oh, barf, gosh. Deling, 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 deling. Tling, tling, ting, tinkle, tling. Phew, phew. Fresh, 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 crumb, hiss. Knock, knock, pop, ouch. Pen, pen, pen. Honk, honk, honk.
Slam, snap, smash, splat, snap,
snort,
splash, split, splat, sprung, strike, stomp, stomp, stomp.
Ce sera le dessin de l'émission.
Alors donc c'est Cathy Berberian qui a fait un sketch musical inspiré de la bande dessinée, qui est constitué d'onomatopées et d'imitations vocales, une œuvre a cappella. Alors elle imite la vache, les poules, le chat, le chien, le cochon et le moustique, la pendule, la porte, la mobilette, l'avion, les armes à feu et la radio, et certains personnages comme Tarzan. ce qui est assez rigolo, c'est que ça date de 1966 et qu'un an après, 1967, Serge Gainsbourg écrit « Comic Strip ». Est-ce qu'il s'est inspiré de Cathy Berberian? Ça, on ne le saura jamais. Enfin, bon, il faut lui envoyer un mail, peut-être qu'il nous répondra.
Finalement, les hommes pillent les femmes et après, ils deviennent beaucoup plus célèbres.
Non, je pense qu'il ne le connaissait pas.
Enfin, ouais, c'est possible, parce qu'il pillait. Moi, je l'avais vu à Londres en studio et il était en train de piller les poèmes de Francis Picabia pour écrire des chansons.
Eh ben voilà.
Enfin, il y a pire. Hein.
Absolument. Mais de toute façon, il faut piller.
Il aurait pu piller Michel Sardou.
Là, ça aurait été difficile.
Bah, oui.
Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. C'est malheureux. Mais Philippe, est-ce que tu seras là avec nous la semaine prochaine? Non, le mois prochain, puisque ce sera le mois prochain.
Oh, bah, pourquoi pas, oui.
Eh bien, voilà. On parlera de toute autre chose. On ne sait pas encore. Peut-être de l'espace en architecture, peut-être d'autres choses. On verra bien.
Le vide en embrasse l'air.
Voilà.
Il
est donc 22h27. C'est trop tard pour nous appeler. Vous pourrez nous appeler le mois prochain. Voilà, j'ai vraiment envie d'être là la semaine prochaine. Bah ouais, ouais. Ouais, j'en ai. Je trouve que c'est un peu nul d'être là une fois par mois.
Ça va passer vite. On a des vies tellement excitantes.
Intenses, c'est ça. En tout cas, on tiendra au courant nos auditeurs. Vous pourrez nous retrouver en podcast sur le www.radiocampusparis.org. Et la soirée continue sur Radio Campus Paris avec Future Basics. C'est Alain qui est juste derrière le micro en régie. Salut.
Bonsoir. Bah, il se peut peut-être qu'on prenne des appels pour vous.
Ah bah oui.
Tout à l'heure.
Avec grand plaisir.
Qui pourrait venir et on prendra les messages et on vous les remettra le mois prochain, donc comme les premiers mercredis du mois.
Exactement, c'est bien comme répondeur téléphonique, c'est pratique finalement.
Oui, c'est un peu à l'ancienne, ça va être à coup de post-it, hein. Je préviens tout de suite.
Eh bien c'est pas mal, qu'est-ce qui se passe ce soir dans Future Basics?
Alors ça sent un peu la consanguinité ce soir, puisque en fait on va recevoir un groupe, un duo dont la moitié n'est autre que le cofondateur de cette émission-là.
D'accord.
Mais l'actualité musicale le demande, ils sortent, c'est le duo Soulance qui sort son EP Tartare et qui est sorti vendredi dernier, et Soliste et Fulgence seront en direct de Caen pour parler de ce disque.
Ah ben, on est ravis de les réaccueillir sur Radio Campus Paris. Merci beaucoup Alain et bonne émission tout à l'heure.
Au mois prochain.
Au mois prochain, avec plaisir. Il est donc 22h29, il est temps de rendre l'antenne pour nous. Est-ce que vous avez un petit dernier mot à dire? Il vous reste 40 secondes.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir et merci. Merci à Étienne pour la réalisation de cette émission. Merci à Émeric, notre auditeur. Ça fait toujours plaisir d'avoir des appels de temps en temps. N'hésitez pas à appeler Alain, il sera ravi de prendre des messages pour nous et de nous les donner le mois prochain. On embrasse tout le monde très fort. Bon, merci à Joséphine de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère qu'elle est encore là, Joséphine.
Salut,
on l'embrasse.
Joséphine.
et bien voilà, bonne soirée sur Radio Campus Paris. À dans un mois, premier mercredi du mois, pour Résonance Magnétique.